RCN. Écoutez le monde qui bouge.
Israël d'hier et d'aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Israël sans langue de bois. Avec André Bar-Mocha, Israël d'hier et d'aujourd'hui sur RCN.
Bienvenue sur RCN dans l'émission Israël d'hier et d'aujourd'hui, l'émission d'actualité et de géopolitique, la devise de l'émission, il y a mille façons d'informer, il n'y en a qu'une pour dire la vérité. Pour cette dernière émission avant Pessah, j'ai voulu un invité un peu plus différent, et vraiment très différent de ce que j'ai habituellement, parce que vous savez, comme dans cette émission on traite d'actualité géopolitique, on a en général des invités qui ne sont pas en plateau, qui ne sont pas en studio, qui sont souvent dans différents pays du monde, des États-Unis en passant par l'Amérique du Sud, en passant par Israël, voire le Canada, voire l'Europe. J'ai des invités dans plusieurs pays, plusieurs continents évidemment. Et aujourd'hui, notre invité, comme je disais, il est dans le studio. Je vais parler aujourd'hui et présenter mon invité, puisqu'il s'appelle Yvon Bertorello, qui est un journaliste, un réalisateur documentaire. Il me rectifiera d'ailleurs si je dis des bêtises, en tout cas je vais essayer de pas le faire. Donc spécialiste aussi, scénariste de bande dessinée, en particulier le scénariste de bande dessinée que je reçois, qui est présent dans notre studio, je disais, c'est différentes bandes dessinées que je veux vous en parler, parce qu'elles sont particulières. Pas seulement pour le titre, pas seulement pour leur qualité, mais en même temps, pour certaines, je pense que c'est pour le message, pour ce qu'il y a dedans, parce que la bande dessinée est un support aujourd'hui qui est de plus en plus valorisé à sa juste valeur. Pendant des années, il n'a pas été dans ce cas-là. Donc, sans plus tarder, je reçois mon invité. Bonjour, Yvon Bertorello. Et puis, alors j'ai un peu de mal, parce que moi, les noms italiens, c'est pas toujours... C'est un nom italien, je ne dis pas de bêtises.
Et bonjour, effectivement, Bertorello.
Ah, c'est plus joli. À laquelle la prononciation italienne. Je m'y mets de temps en temps, mais je suis pas encore un grand spécialiste, même si j'adore l'Italie avec toutes ses spécialités. C'est un pays qui est un pays qui a beaucoup de liens avec la communauté juive et avec notre histoire, de bonne et de moins bonne, malheureusement, parce que les Romains ont pas toujours été des alliés profitables au peuple juif, mais c'est quand même une culture qui est proche de la nôtre, et beaucoup d'Italiens sont d'origine juive. C'était pour ça que d'ailleurs j'ai de sensibilité que je retrouve et que j'ai eu, qui m'a touché justement sur vos bandes dessinées, parce que je précise, je vous ai rencontré au salon du livre, comme beaucoup vous exposez à travers les salons, et que la bande dessinée aujourd'hui est importante. Donc je voulais un peu en parler aussi à nos auditeurs, parce que c'est quand même un sujet particulier. Avant Pessah, ça peut être une idée cadeau pour les familles. Alors je précise que les bandes dessinées que fait ce monsieur, que font son édition, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a des dessinateurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous garantis qu'il y a des dessins qui sont d'une très grande beauté, qui sont vraiment très réalistes. Il y a de l'histoire, il y a de tout, parce que vous n'êtes pas seulement spécialiste en loisirs, mais vous faites des bandes dessinées historiques.
En fait, moi je fais beaucoup de bandes dessinées historiques, et parmi les BD historiques, des BD mémorielles. C'est un sujet qui me touche beaucoup pour des raisons familiales, personnelles, et ma formation me porte à faire ce genre de projet. Donc j'ai fait des BD sur le génocide arménien. Là, je développe cette série qui est...
Je la connais pas, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est voilà. Une communauté qui mérite d'être connue.
La communauté largement. Juive et la communauté arménienne, ces deux communautés sont assez proches de destins dramatiques, douloureux, de persécution. Il y a quand même pas mal de similitudes entre la communauté juive et la Absolument. Communauté arménienne. C'est malheureusement, je dois le dire.
On a tendance même à confondre l'un et l'autre, parce qu'on les retrouve souvent dans les commerces, mais on les retrouve aussi dans leur sensibilité, dans leur comportement, leur caractère. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette communauté que j'apprécie énormément. Celle de Nice et de la région est particulièrement, absolument, je dirais, délicieuse, esquisse, c'est qu'à de le dire. Je trouve que c'est des gens d'une positivité, d'une gentillesse extrême. Je ne tarie jamais d'éloge sur cette communauté. Et je trouve que c'est beau, parce que moi-même, je rends souvent hommage pour ce génocide qui, malheureusement, est une catastrophe, qui est souvent trop édulcorée et trop oubliée, parce qu'elle est plus importante qu'on ne le croit, parce qu'elle associe en plus avec les chrétiens grecs. Et on ne sait pas et on ne connaît pas l'importance des fameux grecs de Smyrne et compagnie. Et vous avez... Ah, le téléphone, oui, vous l'aviez coupé, mais comme toujours, ça c'est ce qui arrive souvent avec les invités en plateau, le téléphone, on a beau avoir coupé certains sons, il y a toujours des sons derrière qui restent, et puis forcément, il y a plein de gens qui vous appellent parce qu'ils ont besoin de vos compétences. Vous voyez, cette communauté, elle est particulière, parce que ils ont ce rapprochement par rapport au génocide des chrétiens, et on retrouve à travers eux la présence juive à travers tous les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et bien sûr d'Europe, et on retrouve ces destins similaires avec la communauté juive, avec le peuple d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs à quel point on est très proche, et forcément, ce qu'ils ont connu dans ces années du début du XXe siècle, quelque chose d'abominable, comme tous les génocides, ils méritent d'être connus pour éviter, comme on dit toujours, de renouvellement.
Et bien justement, il y a un aspect qui est méconnu du grand public, c'est que dans le livre d'Adolf Hitler, ce fameux misérable Adolf Hitler, c'est ironique ce que je dis, dans son livre « Mein Kampf », il dit... Qui se souvient, alors on parlait pas de génocide, qui se souvient du massacre des Arméniens?
Ouais.
Parce qu'il avait déjà planifié la Shoah, donc la disparition du peuple juif, et des gens un peu moins fous que lui avaient dit, mais la communauté internationale va protester si vous déportez les juifs, si vous décidez de les massacrer en grande quantité. Et lui, il a répondu, mais qui se souvient du massacre des Arméniens? Et il dit ça dans son livre « Mein Kampf ». C'est important, hein. Donc 20 ans avant le génocide juif.
C'est très important.
Dans son livre, il dit « Qui se souvient du massacre des Arméniens ?» C'est-à-dire, pour les Juifs, personne ne protestera, on laissera faire.
Oui. Puis en plus, c'était loin, c'est l'Empire Ottoman. Ils étaient coincés avec la Première Guerre mondiale. Donc il n'y avait pas du tout la même préoccupation des peuples. Il n'y avait pas la communication des médias qu'on peut avoir à travers différentes époques. Donc il espérait, comme bien d'autres, qu'on les oublie. Et aujourd'hui, justement, on ne les oublie pas, parce que c'est encore toujours l'occasion d'en parler. Et c'est ce que j'aime dans votre bande dessinée, c'est qu'elle est réaliste. Et je suis persuadé que tous ces livres que vous faites sont beaucoup plus intéressants et plus importants que des livres de bibliothèque. C'est pour ça que moi, je me rappelle, dans mon enfance, j'avais une affection pour les livres qui avaient des dessins, parce qu'on n'avait pas les télévisions qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les médias avec toutes ces chaînes de télévision, on n'avait pas tous ces reportages. Et la bande dessinée réaliste et historique, le peu qu'il y avait, parce que j'en ai connu avec Alain Decaux, mais c'était déjà, j'avais déjà pas mal d'années, c'est pas quelque chose que j'ai connu très jeune. Et je suis persuadé que les bandes dessinées comme la vôtre sont non seulement nécessaires pour les adultes qui n'aiment pas forcément les livres très épais, avec beaucoup de lectures, sont des fois fastidieux, la bande dessinée apporte une certaine facilité, et en même temps ça accroche les jeunes de tout âge, parce que s'ils ne comprennent pas tous les textes, ils vont m'être accrochés sur les dessins. Et moi, je sais que je prends souvent l'exemple d'Astérix ou de Lucky Luke et tout ça, qui avait des dessins qui me touchaient. Et j'ai dit souvent, quand j'ai appris les langues étrangères, alors j'ai appris l'allemand, malheureusement, avec des gens de ma famille qui avaient connu les camps, mais j'ai aussi appris le latin avec Astérix, après des expressions des Romains. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui restent dans l'enfance. Et je suis persuadé que vos différents livres, on va en parler bien sûr dans le cadre de l'émission, les différents livres et nombreux sujets que vous abordez, sont des livres qui peuvent marquer des générations, parce qu'elles vont toucher telle ou telle personne, qui les toucheront peut-être même dans leur futur, dans leur profession.
Oui, effectivement, la BD, comme vous l'avez dit justement au début de l'émission, c'est un vecteur très important pour toucher un très large public. Moi, je le dis souvent et je le répète, avec la bande dessinée, on touche toutes les générations, toutes les classes sociales. La BD n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et c'est un instrument de propagande au sens noble du terme.
Ah oui.
C'est-à-dire, on peut faire passer des messages très importants.
J'ai pensé à ça, j'allais vous en parler.
C'est très très important. On peut passer des messages. C'est si vrai que dans les régimes dictatoriaux, c'était interdit, la bande dessinée.
Oui, c'est
la BD existait déjà du temps du régime nazi, elle était interdite.
Oui.
Les communistes l'ont absolument interdite, il n'y avait pas de bande dessinée. C'est pour ça qu'ils ont, actuellement en Russie, y a pas, dans les anciens pays de l'Union soviétique, il n'y a pas de culture de la bande dessinée, parce que c'était interdit. Ils ne connaissaient pas ça. Et donc on peut passer vraiment des messages très importants. Et les jeunes aujourd'hui, qui ne lisent plus malheureusement de livres surtout historiques, eh bien lisent encore des BD. C'est une littérature qui se porte très bien, ils sortent 50 BD par semaine. Et moi, j'ai pas de mal à développer mes projets. Comme je vous le dis, je fais des BD très éclectiques, des bandes dessinées éclectiques chez des éditeurs variés, sur des sujets variés. Mmh. Mais l'essentiel de ma production, si je puis dire, c'est surtout des BD historiques et mémorielles. Parce que j'essaie d'utiliser mon art pour faire passer des messages.
Oui, je vais en parler. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est important. Il y a la bande dessinée qui transmet des messages parce que il y a des choses que souvent qui est méconnue, c'est ce qu'on appelle méconnue par une partie du public, heureusement appréciée par d'autres. Je vais parler du dessin de presse. Et dans votre bande dessinée, on a un peu affaire aux dessins de presse qui sont souvent interdits, comme vous l'avez dit justement, dans les dictatures, dans des régimes, on l'a vu, autocratiques ou théocratiques comme celle du Proche-Orient. Et on a encore, moi je connais des journalistes d'origine d'Algérie, qui ont justement été persécutés pour ces raisons, parce qu'ils avaient des amis qui faisaient des dessins, et aujourd'hui encore, il y a des dessinateurs qui sont réfugiés en Europe, qui sont des dessins de presse, qui sont dans le même style de qualité, qui arrivent avec un dessin à révéler des fois un sujet, un message. Et vous l'avez sur une bande dessinée, et je pense qu'il peut y avoir des gens à un moment fatigués de lire, parce qu'il arrive un moment de la journée, moi ça m'arrive le soir, contrairement à beaucoup de gens, j'aime pas lire des choses trop longues le soir, si même je lis, je veux lire des messages de presse, des articles très courts, mais je vais pas aller prendre un livre, contrairement à d'autres, qui veulent faire des pages, ça me fatigue, j'ai les yeux fatigués, alors que la bande dessinée, ça passe plus facilement. C'est plus facile à, si je puis dire, à aborder à n'importe quel moment. Ça m'arrivait même des fois dans une salle d'attente d'un médecin de trouver une bande dessinée intéressante et d'aimer m'échapper comme ça avec, en appréciant la beauté du crayon quand c'est pas le texte. Mais vous avez tout en plus.
Il m'est même arrivé de voir des jeunes gens lire une ou deux de mes BD sur des tablettes dans un train.
Ah oui, vous en avez aussi qui peuvent aller sur les tablettes.
Sur les tablettes, et un jour magnifique. J'étais dans le TGV pour me rendre à Paris, et je vois un jeune homme qui était à ma gauche, qui tournait les pages sur sa tablette. J'ai dit, mais je connaissais pas, c'était ma bande dessinée. Ça m'a fait drôle de voir...
Je savais pas que vous étiez sur les tablettes, ça c'est super.
Ça m'a fait drôle de voir une bande dessinée, c'était une BD chez Glénat, et ça m'a fait drôle de voir une BD sur une tablette.
Ah, je trouve ça génial, parce que c'est aussi un support qui touche beaucoup une certaine génération. Les tablettes ont leur avantage, on peut avoir beaucoup plus de stockage, ça a l'avantage d'avoir, on peut avoir des dizaines de livres. C'est un peu comme le livre audio qui a aussi un avenir, mais la bande dessinée par son dessin, là où vous m'avez emmené une bande dessinée qui n'est pas triste, je vous laisserai la présenter parce que je voudrais pas me permettre de la présenter, elle est assez dure parce que c'est quand même un moment historique. Qui est dur par rapport aux événements récemment, qui traite sur un tremblement de terre, et les tremblements de terre sur la région Côte d'Azur, comme dans d'autres régions du monde, en Israël comme ailleurs, en Turquie ou ailleurs dans des pays, on les connaît.
Effectivement, on est sur une zone sismique, et je ne l'ai pas fait exprès, c'est une série sur les risques naturels, que je fais en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, avec l'association FPCNT, Association française pour les catastrophes naturelles et technologiques, et le tome 1 de cette série sur les risques naturels, est consacré au séisme. Et comme la plupart de mes co-auteurs, à part Eric Ruxtul qui habite en Bourgogne, nous habitons dans la région PACA. Et on s'est dit qu'on allait prendre comme exemple de cette BD sur les séismes, les tremblements de terre, notre région. Et donc on commence par tous les tremblements de terre qui ont eu lieu à la fin du 19e dans notre région, on va dire sur la faille Ligure, sur la Riviera, 1887 à Monton, Castillon, la Vésubie, 2000 morts au-dessus de Vintimille. Et puis quelques années après, en 1909, le tremblement de terre de Lambesc, où il y a eu beaucoup plus de morts, des destructions, etc. Donc ça, c'est le tome 1, voyez. Et il se trouve que j'ai présenté ma BD à la radio sur Fréquence Méditerranée à Menton, le jour des secousses. Ouais. À 18h30, j'étais à la radio, il y avait les premières secousses.
C'est celle que j'ai le plus ressentie en ce qui me concerne.
Oui, et les gens l'ont bien ressenti. Moi, j'ai ressenti aussi chez moi. Il y a eu des secousses jusqu'à 22h. Il y en a eu hier encore, d'ailleurs. Donc ça, c'est le tome 1 sur le tremblement de terre. C'est très instructif parce qu'à la fin de chacun de ces volumes sur les risques naturels, il y a un cahier qui est réalisé par un scientifique pour montrer tout le sérieux de la bande dessinée.
C'est ce que j'apprécie, entre autres, c'est la qualité des dessins, mais la qualité de l'historique de la. Vous avez un travail incroyable.
Toutes les BD que nous faisons avec mes co-auteurs, il y a plusieurs équipes, ce sont des BD la plupart didactiques et ludiques. Il faut qu'on apprenne. Oui. Je ne fais pas des BD purement ludiques. Il y a toujours quelque chose d'instructif, de didactique dans mes bandes dessinées. Même dans des BD, une série qui n'a rien à voir, puisque comme je vous l'ai dit, je fais des choses très éclectiques. Je développe une série sur les énergies renouvelables et naturelles aux éditions d'Argo. Ça s'appelle Les Mondes d'Arven, trois volumes sont sortis sur la géothermie, le thermalisme, etc. Et c'est un des, ça c'est pour les pour la jeunesse et même pour les enfants à partir de 10 ans, de 7 ans, 8 ans. C'est un dessin un peu héroïque fantasy, rien à voir avec le dessin historique et réaliste de la plupart de mes BD. Mais malgré le dessin, eh bien, il y a un message à faire passer. Les enfants apprennent tout en se divertissant.
Absolument.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai dans mes BD historiques, évidemment, et mémorielles, comme celle sur les Justes, dont j'imagine qu'on va parler un peu plus longuement.
Absolument.
Sur cette radio.
Et comment? Mais c'est parce que c'est ce qui me plaît dans le support de bande dessinée, dans la qualité des vôtres, c'est justement cette approche, parce que vous pouvez, et je dis à tous les auditeurs, quel que soit leur âge, si vous avez des enfants, des frères et sœurs, des gens qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir des livres, c'est quand ils ouvrent une bande dessinée, ils vont être attirés par telle ou telle bande dessinée. L'idéal souvent, c'est d'en avoir plusieurs sur différents sujets, à mon avis, ou d'aller au salon du livre aussi, d'aller voir des créateurs comme vous, pour justement voir et voir comment ils vont réagir. Moi, à chaque fois que j'y vais, je vais voir différents auteurs, faire des rencontres, différentes personnes, même des futurs invités, mais je vais quand même toujours aussi à la bande dessinée, parce que d'abord, j'aime les gens qui font des caricatures, j'aime les gens qui font des autographes sous forme de dessin, et j'aime voir aussi mon œil à la fois d'enfant et d'adulte sur ces nouveautés, et en même temps, je me régale quand je vois des enfants qui ont cette chance d'aller au salon et de découvrir des livres de cette qualité, et je me rends compte on voit des gamins de toutes sortes de styles et qui n'ont peut-être jamais ouvert un livre de leur vie, et puis le jour qu'ils tombent sur une bande dessinée qui accroche leur regard, ça va être peut-être le début pour eux de l'instruction, de l'envie d'étudier, de l'envie d'apprendre, et ça peut être un pied à l'étrier, j'en suis persuadé, pour beaucoup de ce qu'on appelle entre guillemets de cancre, qui sont des fois des érudits, qui sont des enfants très bons, mais qui n'arrivent pas à accrocher à tel ou tel enseignement, et que la bande dessinée, et j'en étais un peu dans ce cas-là à une époque, la bande dessinée m'a aidé à apprendre et à envie d'apprendre certaines choses, que je n'avais pas avec certains livres.
Exactement, la bande dessinée peut motiver des gamins, même de milieux un peu défavorisés ou qui n'ont pas l'habitude de lire, et bien de lire tout simplement, de se cultiver. Une BD peut être très bien écrite aussi.
Absolument.
C'est très important. Il n'y a pas forcément que des expressions populaires. Nous, on essaie de bien les écrire avec une vraie syntaxe, avec un vocabulaire. Mmh. Et donc, on apprend à lire correctement, on se divertit, on s'instruit. Donc, c'est l'ensemble, c'est trois facteurs qui fait qu'une bande dessinée, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est un bel objet. Absolument. Tout à l'heure, on parlait des tablettes, mais moi, je préfère une BD imprimée, parce que c'est un bel objet.
Ça, c'est pour tous les amoureux. Là, j'avoue que je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'en fais partie. J'ai besoin du toucher papier. Je fais partie des gens qui aiment le contact du papier. J'aime en plus la qualité des couvertures, ce côté glacé, l'intérieur des pages. Moi, la bande dessinée chez moi, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Et c'est un peu comme les dessins animés. Les dessins animés, il y a une époque. Aujourd'hui, ils sont faits de différentes manières. Mais j'aime le certain dessin. Je parle bien sûr des Walt Disney, les plus célèbres. Mais il y a des Tex Avery qui sont pour moi la référence la plus grande, la plus belle, qui n'a pas d'âge, parce que c'est comme Astérix et Obélix. Quand on regarde les anciennes éditions, c'est ce qu'on dira sûrement de certaines de vos bandes dessinées un jour, c'est que même quand ils ont des dizaines d'années, après tel ou tel âge, on peut les redécouvrir et comprendre des fois des textes ou de l'humour qu'à tel ou tel âge, on n'a pas compris. C'est ça qui est bien, c'est que quand on arrive à une bande dessinée intéressante, en fonction de l'âge, on peut évoluer, on peut se construire sur des histoires, mais je trouve sincèrement la qualité donne justement cette envie de découverte. On a envie de tourner la page d'après à chaque fois. Et je suis sûr que celui qui lise, et tous ceux qui vont lire, hein, ceux qui lisent une bande dessinée comme la vôtre, ils ont envie d'avoir la suite après.
On voit que vous connaissez bien le monde de la bande dessinée.
Ah, hein. Mais moi, je le dis, ce n'est pas de la flagornerie. Je suis un passionné de la bande dessinée depuis mon enfance. Et je pense qu'elle m'a aidé. C'est comme la télévision, en choisissant les bonnes informations, les bons documentaires, m'a aidé à m'ouvrir à la connaissance qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Dans ma jeunesse, on n'avait pas la chance d'avoir des Google, d'avoir des WhatsApp et d'avoir toutes sortes de moyens de communication qu'il y a maintenant. On n'avait que la bibliothèque quand il y en avait une dans la ville ou dans le quartier qu'on habitait. Et la bande dessinée m'a permis de m'ouvrir à certains arts, à certaines connaissances. Et c'est pour ça que j'apprécie la bande dessinée, parce que je l'ai fait avec mes enfants, c'est un véhicule extraordinaire. Et tous les bandes dessinées qui me sont restées, que j'ai transmises à mes enfants, à mes petits-enfants, je vois aujourd'hui, certains s'intéressent à ça. J'ai un de mes petits-enfants qui est passionné des dinosaures. Il a 12 ans. Si vous lui parlez d'un dinosaure, il va vous sortir le nom du dinosaure, de l'époque, à quelle époque il est sorti. Il est incollable. C'est une véritable, je dirais, dictionnaire de cette passion. Et quand il voit des bandes dessinées ou quand il voit des événements sourds, ce qui le passionne le plus, donc les dinosaures, bah, il ouvre ça avec plaisir.
Mais justement, parler dans votre sens, les moyens modernes de communication, Internet, les réseaux, WhatsApp et tout ce que vous voulez, les tablettes, non, tout ça, ça n'a pas détrôné la BD imprimée.
Absolument.
C'est l'une des rares littératures que les jeunes, et encore une fois de tous les milieux sociaux, lisent, toutes les générations, ouais. Et en particulier les jeunes lisent, ils achètent. Il y a la bande dessinée est en plein développement. C'est incroyable.
On a l'impression qu'elle existe depuis peu de temps, alors que c'est extrêmement, ça a des dizaines et dizaines d'années, mais elle a pris ses lettres de noblesse, comme on pourrait dire. Et vous avez raison, parce que depuis des années, il y a les salons de la bande dessinée. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que la bande dessinée est revenue avec toutes les générations. Vous l'avez raison. Il y a les jeux vidéo, il y a les tablettes, il y a toutes sortes de moyens de communication, mais la bande dessinée reste un support qui intéresse, même pour la science-fiction.
Ça échappe à tous les critères. C'est assez surprenant, d'ailleurs. C'est en plein développement. Il y a des salons qui se créent. Ils ont tous du succès. Moi, j'ai plus de jeunes parmi mes lecteurs que des gens de 40-50 ans. J'ai les adolescents, et encore une fois, de tous les milieux, c'est impressionnant. Hein.
Ah mais moi, je tombe sur certaines de bandes dessinées chez vous, dans une salle d'attente de chez nous à la radio, que ça soit, comment dire, chez un médecin. Je vous garantis que c'est pas un magazine de Paris Match que je vais regarder. C'est pas les affaires du showbiz et tout qui m'intéresseront. Je regarderai en fonction du sujet, mais votre bande dessinée va m'attirer beaucoup plus parce que je sais qu'elle est fiable. Je sais que je vais apprendre des choses, puis j'aurai ce plaisir de découvrir. Bon, faut savoir admirer la planche. Faut ce qu'on appelle la planche de dessin. Faut savoir aimer le dessin. C'est peut-être aussi ça. J'ai fait beaucoup de dessins dans ma vie à différentes raisons, étant adolescent. Mais quand on voit j'avais un frère qui était un très grand dessinateur de bande dessinée. Moi, c'était pas mon cas. C'était pas là où j'étais le meilleur en dessin. Mais par contre, quand je vois les planches et quand je vois la qualité des dessins, je vous garantis, ça donne envie de lire. Ça donne envie de les découvrir. Et puis surtout, c'est que vous lisez des choses en apprenant. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, avant de vous laisser me répondre sur ce sujet et me parler de tous les différentes bandes dessinées qui font aussi qu'on va pouvoir en débattre un petit peu plus, on va passer une petite pause musicale, petite pause très courte, et ensuite on se retrouve et puis on parlera à nouveau des différentes bandes dessinées que vous avez éditées parce que celle que j'ai sous les yeux me donne déjà envie de la découvrir. Je suis certain que je vais encore apprendre plein de choses dessus.
Menacing, it's on the door of our force.
Alors, bien sûr, l'émission reprend. Alors, vous avez entendu notre délicieux chanteur que l'on affectionne beaucoup dans cette radio, et moi particulièrement dans cette émission. Il s'appelle Idan Hamidi, qui est un ami à la fois de la radio, parce qu'il était venu grâce à l'initiative, notre chef d'antenne aussi, était venu en concert à Nice. Et aujourd'hui, il est un peu plus célèbre, je dirais malheureusement, parce qu'il a été blessé gravement en intervenant dans les opérations militaires à Gaza. Et d'autres le connaissent, bien sûr, en tant qu'acteur, parce qu'ils l'ont vu dans la fameuse série Fauda, pour ceux qui connaissent. Et Idan Hamidi, c'est une voix, c'est un musicien, c'est un auteur-compositeur. Bah, il est comme monsieur qui est en face de moi. Il a de multiples talents. Et je vais parler, bien sûr, de mon invité, Yvan Bertorello, qui est un invité, donc je disais, hors norme, parce que c'est le premier et le seul que j'ai reçu dans ma carrière, qui fait des bandes dessinées. Et moi, il me plaît parce que c'est des bandes dessinées réalistes, historiques, faites par des dessinateurs hors pair, faire par des gens qui ont fait un boulot monstre, parce qu'imaginez que quand on fait des livres sur l'histoire, il faut chercher des documents, il faut chercher la réalité. C'est ce que je fais moi dans cette émission, c'est pas de sortir des conneries et des imbécilités qu'on entend un peu partout, c'est sortir des vérités avérées. Et moi, je tiens toujours comme à mon slogan, il y a 1000 façons d'informer, il n'y en a qu'une pour dire la vérité. Et quand dans une bande dessinée, on dit la vérité, on a besoin de sortir des arguments, des choses qui vous touchent, et rien de plus beau pour des gens qui vont regarder un livre comme ça, quelles que soient leurs compétences, c'est d'apprendre des choses. Et on en parlait en antenne, il y a même des sujets que certains historiens ignorent, que ce cher monsieur qui est en face de moi connaît, et j'avoue qu'il m'étonne, parce qu'il y a des sujets que les gens connaissent tellement peu dans l'histoire. Alors, bien sûr, vous avez fait cette bande dessinée qu'on a parlé rapidement, mais qui est magnifique, et sur le tremblement de terre de Lambesc. Alors moi, je trouve que c'est intéressant à connaître, parce que, bien sûr, il y a des gens superstitieux, mais il est nécessaire aussi d'être au courant qu'il y a, comme un spécialiste me l'avait dit une fois, de la géologie, il paraît qu'il y a plus de 300 tremblements de terre sur la région par an. Évidemment, il y en a eu des dizaines ces derniers mois que je n'ai pas senti. Moi, j'en ai senti qu'un seul réellement. Et j'avoue que j'ai bougé dans mon canapé. Et sérieusement, j'ai eu les portes qui ont claqué, mes fenêtres ont bougé. C'était vraiment impressionnant. Alors, c'est mon 7e, j'en ai connu 2 en Israël, et puis mon 5e dans la région. J'avoue que je suis vacciné, mais c'est quand même un des plus forts que j'ai connu. Et quand on voit la bande dessinée que vous avez fait sur ce sujet-là, on a l'impression d'imaginer ce que ces pauvres gens à l'époque ont connu, où il n'y avait pas les constructions du même niveau.
Effectivement, les normes de construction ont évolué. Il y a eu trois époques de modification. Actuellement, normalement, les bâtiments sont plus résistants, mais enfin,
ils ont hélas toujours des limites.
Bah oui, ils ont des limites.
Le Japon est un bel exemple, ou un triste exemple.
Qui dépasse 7 sur l'échelle de Richter, il n'y a rien à faire. Les bâtiments s'écroulent. Donc c'est terrible. Comme vous le disiez, il ne s'agit pas d'être superstitieux, il s'agit d'être informé.
Absolument.
C'est pas parce qu'on va lire une bande dessinée sur le tremblement de terre qu'il va y en avoir un demain. Mais si vous en lisez pas, vous risquez d'être un peu moins informé. Donc, celle-ci s'appelle le tremblement de terre de Lambesc, que je précise, mais c'est pas uniquement sur le tremblement de terre de Lambesc. On l'appelait tremblement de terre de Lambesc parce que c'est le tremblement de terre le plus important depuis 150 ans
dans la région. De l'Italie à la France, hein.
Voilà, exactement. Il y en a eu plein. Celui de Menton en 1887. Celui de Castillon, il y a eu des morts.
Et le centenaire que vous aviez parlé tout à l'heure, c'est 1887, c'est ça ?
1887, c'est le les divers
tremblements de terre. Il y a eu le centenaire, donc il n'y a pas longtemps.
Voilà, c'est les divers tremblements de terre de notre région, Vintimille, San Remo, Boussonne avec, au nord de Vintimille, il y a eu 200 morts, je crois. Oui. Menton, je l'ai dit, Castillon, la Vésubie, puis quelques années après, Lambesc, qui a été le plus fort. C'est pour ça qu'on lui a donné ce titre-là.
Oui, parce qu'il y a des villes, ou des villages à l'arrière-pays qui, pour une raison ou pour une autre géologique, ont été plus ou moins touchés. On le voit en Italie, il y a toujours ce phénomène. Et c'est vrai que je crois que, d'abord, c'est comme les extincteurs. On peut acheter des extincteurs. C'est pas pour ça qu'on a envie d'avoir un incendie, qu'on va en avoir un. Je dis ça parce que je sais que dans nos auditeurs, il y a des gens superstitieux. Je connais des gens qui nous écoutent, qui sont forcément d'une culture, on a un peu la superstition. Moi, j'ai appris une chose quand j'étais adolescent, de dire que non, je suis pas superstitieux, c'est contraire à ma religion. Alors chacun en dira et en fera ce qu'il veut. Moi, je pense que la prévention, c'est mieux. Moi, je parle beaucoup d'affaires de géopolitique, militaire. J'ai des invités où je parle d'armes technologiques et d'armes militaires, de bombes. C'est pas parce qu'on va avoir des bombes sur la tête, mais c'est des fois utile de faire la différence entre une roquette et un missile, parce que si un jour on avait le malheur d'être dans un endroit où on peut avoir le risque de l'un ou de l'autre, on pourrait un peu mieux savoir comment se prémunir. Parce que c'est quand même des grosses différences. Ça vous permet en plus de pas être intoxiqué par la propagande, parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas faire la différence entre un missile guidé, une bombe qui tombe un peu au hasard, et une bombe intelligente qui visait avec une grande précision. Ben là, c'est la même chose. Le s'instruire, c'est jamais trop, et s'instruire avec des dessins qui vous donnent une image. Bien sûr, il y a la force du dessin, ça peut marquer des gens. Donc c'est pas forcément à donner entre toutes les mains, mais comme on l'a dit précédemment, vous avez des bandes dessinées à tous les niveaux. Et bien sûr, je voulais parler celle des Justes, parce que vous avez parlé des Justes, mais alors en plus c'est intéressant, parce que vous avez parlé des Justes de la région. Et on a une émission d'ailleurs dans cette radio qui en parle aussi.
Effectivement, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis des années. L'occasion s'est présentée un peu banalement parce que j'ai rencontré Michèle Noéro, qui était l'adjointe du maire de Peille. Elle est historienne elle-même et elle venait de faire toutes les démarches pour faire reconnaître une religieuse de Peille, sœur Thomasine, juste parmi les nations. C'est elle qui a fait toutes les démarches, qui a contacté Yad Vashem, etc. Et quand je l'ai rencontré pour un tout autre projet sur la ligne Maginot, vous voyez, eh bien, elle m'a parlé de cette sœur Thomasine, juste à Peille. C'est vraiment une personne importante pour la commune. C'était très, très important. Ils sont tellement fiers que Yad Vashem l'ait reconnue, qu'elle lui ait donné ce titre de juste. Elle m'a dit, oh, ça serait vraiment bien que vous fassiez quelque chose. Et je lui ai dit, ça tombe bien, avec mes co-auteurs, on pensait entamer un projet sur les justes, mais une série générale. Et pourquoi ne pas commencer dans la région? Elle m'a dit, ah, mais faites une BD sur Sœur Thomasine. Et je lui ai dit, non, on va pas faire une BD uniquement sur une religieuse, sur une personne, mais l'idée, c'est peut-être de faire connaître ces gens courageux, formidables, qui ont caché et sauvé des innocents dans une période aussi dramatique que la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça qu'est né le projet. Et ensuite, eh bien, j'ai pris contact avec Daniel Vancier,
connu de notre cher
le
ami. Aussi,
c'est pas le président, le responsable de Yad Vashem Côte d'Azur.
Ah oui.
Voilà. Et puis le projet s'est mis en place comme ça. Moi, je suis auteur chez divers éditeurs et j'ai pensé que les éditions du Rocher pourraient être intéressées par le projet. Ça a été le cas. Et donc, on développe une série et on s'est dit qu'on allait commencer par notre région. Parce que dans les Alpes-Maritimes, c'est l'un des endroits où il y a eu le plus de Juifs qui se sont réfugiés.
Oui, c'est méconnu ça aussi.
Voilà, pour des régions historiques, c'était une zone en
zone
soi-disant
libre. Saint-Martin-Vésubie, j'ai eu l'occasion d'aller d'ailleurs.
Voilà.
C'est une ville où il y a eu beaucoup de Justes, il y a énormément de Juifs qui ont été protégés.
Oui, mais là, ça c'est un fait. Mais la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de Juifs ici, c'est parce que c'était la zone soi-disant libre.
La ligne de démarcation.
Non, mais on était dans la zone dite libre.
Oui.
Et donc les Juifs sont venus dans cette région. Et ensuite, quand elle a été occupée par les Italiens, et les Italiens, Dieu merci, n'ont pas déporté de Juifs. Ils ne portaient pas l'étoile jaune. Alors, sur le tome 1, on a un enfant qui porte l'étoile jaune. On sait très bien que les Juifs des Alpes-Maritimes, et a fortiori les enfants de moins de 12 ans, ne portaient pas. Mais on l'a mis pour que ce soit vraiment identifié.
Je comprends.
C'est pas un enfant ordinaire qui se promenait sur la promenade des Anglais, c'est une maman avec un enfant juif. C'est pour ça qu'on lui a mis l'étoile. Je le dis parce que les gens nous ont dit « Ah, vous avez fait une erreur historique ». Non, c'est volontaire. C'est pour qu'on identifie bien un enfant juif qui est arrêté avec sa maman sur la promenade des Anglais. C'est ça qui est important. La BD, quelquefois, tout n'est pas vrai à 100%, mais l'image est un enseignement et porteuse d'un enseignement, et c'est le cas du dessin. Alors nous, 99% de ce qu'on met dans nos BD ce sont des choses vraies, historiques, documentées, mais il y a toujours un petit peu de fiction parce qu'il faut un liant, il faut un fil rouge. Autrement, c'est dans le cas des justes, c'est un catalogue de justes qui se suivent, ça n'a aucun intérêt.
Absolument.
Il faut qu'il y ait un lien entre les réseaux, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, comme je le disais, on a commencé cette série sur les justes parmi les nations dans notre région. On a fait 2 volumes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un volume, c'était pas suffisant. Et le troisième volume se prépare, et il sera...
Alors, le premier volume, il est, on précise, c'est sur Nice ou c'est le deuxième qui est sur Nice?
Les deux concernent les Alpes-Maritimes, mais
d'accord.
Le premier, effectivement, il se concentre sur Nice et les proches communes comme Peille, par exemple.
D'accord.
Je parlais de Sœur Thomasine, c'est essentiellement dans le tome 1. Dans le tome 2, on va à Grasse, on va à Cannes, on va dans les RPI, à Saint-Étienne de Tiné, on va à Guillaume, il y a eu des gens courageux, encore une fois, dans tous les milieux sociaux, de toutes les conditions, de toutes les convictions, si vous avez des catholiques, des protestants, des athées, vous avez des gens de gauche, de droite, vous avez des pauvres, des riches, des paysans, des aristocrates, il y a absolument de tout parmi les justes, tant mieux, et on essaie d'être le plus objectif possible dans nos BD, mais je le répète encore, parce qu'on nous fait aussi ce gentil reproche, que le clergé catholique est présent, mais pour une raison évidente, c'est que l'Église catholique étant majoritaire en France, le contraire eût été choquant. Donc c'est normal que le clergé soit autant représenté.
Absolument.
On n'a pas favorisé plus le clergé catholique que protestant. Il se trouve que le clergé catholique c'est l'institution qui a le plus contribué à cacher et sauver des juifs.
Oui, parce qu'on pense toujours à l'histoire du pape pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais
faut
pas tout mélanger, que sur le terrain, que ce soit dans plein de pays d'Europe, beaucoup de gens de religion catholique, religion protestante, il y a des fameux villages qui sont très célèbres. En France, il y a énormément de justes parmi les mondes, dans ce monde religieux. Il faut jamais jeter l'anathème à une religion par rapport à ce sujet-là.
Faire très attention.
Vous avez complètement raison.
Les Alpes-Maritimes, dans le diocèse de Nice, l'évêque Monseigneur Raymond, lui rend vraiment hommage aujourd'hui. Il est juste parmi les nations, le vicaire général, des curés, des prêtres, des supérieurs de monastères, de couvents. Enfin, il y en a pléthore dans notre département. Je vais pas les éliminer.
Absolument.
Met aussi des pasteurs.
D'autant plus que Yad Vashem reconnaît toutes les personnes justes, même s'ils ont sauvé qu'une seule personne, ils sont mis en valeur, ils ont leur nom à Yad Vashem. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Donc tous les gens que vous citez sont forcément là-bas.
Ah oui, pour nous, un juste, c'est quelqu'un qui est reconnu par l'État d'Israël, par la procédure bien connue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Yad Vashem le reconnaît. Dieu merci, il y en a eu d'autres. Puis il y en a qui n'ont pas voulu être reconnus. Il y a des descendants de justes qui ne l'ont pas souhaité.
Juste une précision là-dessus. Yad Vashem fait une enquête. Par contre, elle ne refusera jamais un juste. Ce sont des justes qui sont des fois... c'est un peu le problème des héros de guerre et autres. Ce sont des gens qui sont tellement humbles des fois qu'ils ne veulent pas cette reconnaissance. Et c'est des fois à leur mort, ce sont des fois les héritiers ou leurs descendants de manière générale qui font cette démarche.
La plupart du temps, c'est le cas. Voilà. C'est très rare que les justes étaient reconnus de leur vivant parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Oui. Ils pensaient qu'ils ont fait leur devoir. C'était banal.
Normal.
Quand on y pense avec recul, ils ont pris des risques énormes
pour
leur famille.
Oui, parce qu'ils risquaient d'être déportés, eux et toute leur famille. C'est exactement comme à l'époque du bloc soviétique.
Dans mes recherches, dans ma documentation, mes rencontres, j'ai vu pas mal de gens dont les parents ont été déportés parce qu'ils ont caché des juifs. Un gendarme de Vichy, donc à Clermont-Ferrand, dont je connais bien la famille, il a caché les juifs et il a été déporté parce que quelqu'un l'a dénoncé. À Lyon, une religieuse d'un couvent sur la colline de Fourvière a caché, je crois, 17 personnes. Elle a été dénoncée probablement par des bons catholiques, entre guillemets, et très probablement, et elle a refusé de dire où les juifs étaient cachés, elle a été déportée, elle est morte. Et c'est pas des cas isolés, il y en a pas mal comme ça. Et c'est très important de leur rendre hommage à ces personnes, et surtout aujourd'hui où on essaie de dresser les religions les unes contre les autres. Et alors le judaïsme et le christianisme, il y a eu un antagonisme historique très fort, malheureusement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je le redis souvent et je le redirai encore, nous sommes vraiment frères, les chrétiens et les juifs sont frères. C'est très très important. C'est pas du verbiage, c'est la réalité. Les relations entre l'Église catholique, la hiérarchie, le pape, les rabbins, avec le judaïsme dans l'ensemble. Bon, il y a toujours des gens réticents, autant chez les catholiques que chez les juifs.
Mais il y a eu des gens il y a eu un pape qui a fait beaucoup de choses de rapprochement avec le judaïsme. Il y a des gens qui sortent de l'ordinaire et qui ont fait des choses pour rattraper les erreurs, parce que comme toutes, on peut tous faire des erreurs, il y a des erreurs qui coûtent très cher, on peut aussi rattraper. Aujourd'hui, c'est pas l'Église catholique qui fait problème, mais je suis d'accord avec vous, il y a énormément des gens, c'est toujours la même chose, faut éviter les généralités. C'est comme moi, quand à l'antenne, je parle des islamistes, je parle pas des musulmans, je parle des islamistes qui sont des musulmans, évidemment. Mais on doit pas classer tous les musulmans dans le même sac, c'est une erreur extrêmement grave qu'il ne faut pas faire. C'est comme si on va dénoncer la même chose, si on veut pas qu'on dénonce les juifs dans leur ensemble, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a des juifs qui se conduisent mal que tous les juifs sont responsables.
Je suis d'accord avec vous, mais en tant que catholique, parce que je suis baptisé dans la religion catholique.
Ah, vous êtes un mélange, si je m'en
voilà,
rappelle.
Voilà, c'est un mélange dans ma, entre juif ashkénaze, protestant du Queyras dans les Hautes-Alpes, catholique, vous voyez.
Vous êtes bien placé pour
ça
en parler.
Ça fait un bon mélange. Les religions font bon mélange. Il n'y a aucun cocktail. Problème pour moi.
Donc bah, ça vous permet d'avoir une autre vision que d'autres personnes qui sont d'un bord ou de l'autre n'auraient pas forcément.
Je m'en porte absolument très très bien, mais une chose est très importante, la différence énorme, alors je vais parler que du catholicisme, il y a des inconvénients d'être très hiérarchisé, mais l'avantage énorme qu'a l'Église catholique, c'est que quand une décision est prise à Rome, tous les catholiques doivent la suivre.
Oui.
Donc, être antisémite.
Qui n'est pas dans le judaïsme, qui n'est pas dans l'islam.
Voilà.
On n'a pas ce qu'on appelle un clergé mondial généralisé.
C'est un péché très grave. C'est absolument pas possible. Je le répète, c'est pas possible.
Oui.
C'est impossible. Un prêtre qui serait anti, il y en a pas. Mais, un uluberlu et un catholique qui se prétend catholique et qui dit des choses contre les juifs. Et antisémite,
c'est une contradiction.
C'est une contradiction complète.
Absolument.
À bon entendeur, salut.
Mais vous savez, c'est marrant ce que vous dites parce que je me rappelle de plusieurs cas et d'une phrase particulière qui disait qu'on peut pas être chrétien et détester Israël parce qu'Israël, c'est les fondements. C'est la base du christianisme. Comme l'islam a commencé ses racines avec le monde juif, il n'existerait pas ni le christianisme,
c'est
ni
impossible.
L'islam sans le judaïsme. Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ignorent encore aujourd'hui.
Un chrétien qui est antisémite, ça me paraît d'une contradiction même théologique.
Oui. Voir des nazis
tous les fondateurs, ils sont tous...
Qui voulaient tuer les juifs,
oui,
alors qu'ils adoraient un juif. Et les 12 apôtres
qui sont juifs. C'est une contradiction abominable.
C'est complètement idiot.
Une chose importante aussi, parce qu'il y a un grand oublié dans l'histoire religieuse catholique récente, c'est Pie XI.
Oui.
Le pape avant la guerre, qui préparait une encyclique sur le judaïsme, ça c'est pour moi c'est terrible qu'elle n'ait pas pu être, elle n'ait pas pu sortir cette encyclique. Elle était prête. C'est une encyclique qui était formidable. J'ai lu des livres à ce sujet. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu être publiée. Le temps ne lui a pas permis. Et Pie XI répétait souvent que nous sommes des sémites spirituels.
Ouais.
Il disait ça dans les années 30, hein.
C'est joli.
Que les chrétiens sont des sémites spirituels.
Oui, en plus, il y a les chrétiens.
Faut méditer sur cette
du
parole.
Du Proche-Orient, qu'il faut pas oublier, parce que j'en parle moi-même dans cette émission régulièrement, c'est qu'ils sont les premiers chrétiens de l'humanité, c'est les chrétiens du Proche-Orient,
Bien sûr, qui sont
aujourd'hui les plus persécutés avec les islamistes, qui sont les premières victimes depuis des siècles, comme les juifs le sont depuis tout le temps. Depuis l'ère de l'islam, il y a eu des persécutions des minorités, et comme les christianisme est avant l'islam et le judaïsme avant tout le monde, forcément, ils faisaient partie des minorités dans les pays. Aujourd'hui, il y a des rapprochements entre Israël et les pays arabes, mais il y a quand même une base toujours, et même si ça se passe bien en Arabie Saoudite avec certains juifs ou dans les Émirats et dans d'autres pays arabes, faut pas empêcher qu'il y ait une réalité historique qui s'est passée. Aujourd'hui, c'est pas toujours très facile. Il y a heureusement des musulmans et des chrétiens qui sont des gens intelligents, bien informés. Vous en êtes un exemple par votre mélange. Et aujourd'hui, moi, je suis le premier à défendre parce que les généralités, c'est toujours très mauvais. C'est très mauvais de condamner une religion, de condamner un peuple. Si vous voulez pas qu'on vous condamne vous-même, commencez pas par condamner les autres. Déjà, c'est une bonne chose. Mais en plus, c'est tellement idiot par rapport à l'histoire. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, de rencontrer Marek Alter. Il a fait un livre magnifique sur les justes. Malheureusement, ce qui lui manquait, c'est les dessins. Et ce qui lui manquait, c'est une bande dessinée, parce qu'il a fait quelque chose de magnifique. Mais quand même, son livre,
vous faites bien de parler de cela. Dans notre série ambitieuse sur les justes parmi les nations, on envisage un volume en région parisienne. Et forcément, on va parler du recteur de la mosquée de Paris, sous l'occupation, qui a caché les juifs.
C'est pas le recteur d'aujourd'hui que j'ai écouté récemment dans un discours qui était d'ailleurs très intéressant. Mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, il y a même eu aussi, d'ailleurs, très connu pour ceux qui connaissent, il y a une histoire sur un ambassadeur japonais qui a été discrédité par son pays, qui a été reconnu après comme injuste et comme un homme admirable. Il y a aussi les ambassadeurs et l'ambassade de Turquie à Paris et ailleurs qui ont sauvé énormément de juifs. Quand on voit aujourd'hui la politique d'Erdogan en Turquie, on est dans un océan de décalage et de différence. Mais c'est intéressant et là aussi c'est important. Malheureusement pour beaucoup de juifs, ils ne savaient pas que s'ils avaient été à l'ambassade de Turquie ou du Japon, ils avaient toutes les chances d'être sauvés. Beaucoup ne pouvaient pas l'imaginer ou le savoir, et ceux qui ont eu cette information ont été sauvés, ils en ont sauvé énormément en leur faisant des passeports. Là encore, ça fait partie des réalités. Il n'y a pas, en fin de compte, vous l'avez dit très justement, un catalogue, un stéréotype de juste. Il y en a dans tous les couches de la société, comme il y a des salauds, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a des salauds, des traîtres et des mouchards dans tous les couches de la société. Dans les prostituées de la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé des résistantes qui ont protégé même des gens qui ont été des justes. Il y a des gens qui étaient bon chic, bon genre, dans des bons métiers, qui étaient les pires des salauds. Donc en réalité, il ne faut pas jeter, comment dire, l'anathème, la condamnation avec un métier, une profession. Des médecins pareil, il y a des médecins qui étaient des gens magnifiques, il y a des gendarmes, des policiers qui ont sauvé des quantités de juifs et sauvé des résistants, que d'autres à l'inverse étaient les pires des salauds. Donc dans tous les cas, refusez, faites jamais l'amalgame sur une profession et sur une origine ou sur une religion. Il y a pas plus d'idiots, ça va vous induire toujours en erreur.
Ben, c'est l'éducation, la culture. C'est
et très, les bandes très, dessinées comme la vôtre.
La bande dessinée, une bande dessinée sérieuse comme les BD que nous faisons, nous ne sommes pas les seuls, Dieu merci. Eh bien, ça permet de limiter l'ignorance, du grand public. Voilà.
C'est pour ça, d'ailleurs, que ça me touche. Et je vous cache pas, celles que j'ai eues, j'en ai eu ma vie offert quelques-unes. La première personne à qui je les ai offertes, c'est à mes petits-enfants. Parce que, je veux dire, ils ont l'âge pour, j'avais envie d'abord qu'ils s'accrochent à la bande dessinée, qu'ils s'y intéressent, mais qu'ils apprennent. Et comme j'ai la chance d'avoir 11 petits-enfants dont certains sont pas du tout des idiots. J'ai la chance d'avoir des petits-enfants, même certains sont vraiment des surdoués. Et je sais, entre autres, mon spécialiste des dinosaures s'appelle Logan, il se reconnaîtra quand il écoutera l'émission, c'est que lui, il est touché en plus par les dinosaures, mais je sais que ça le passionne, les dessins. Il a énormément d'imagination, il a un cerveau qui fonctionne très vite, et lui, comme ses sœurs, il a, comment dire, un frère et deux sœurs, et dans ces quatre que j'ai d'un de mes fils, ces petits-enfants, ils n'ont pas la même approche. Mais je sais que, en leur prêtant les bandes dessinées comme je l'ai fait, je les ai testées pour voir comment ils réagissaient, je leur ai ouvert pour leur montrer les dessins, et c'est amusant, c'est de voir leur réaction. Un enfant de 6 ans, 7 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 12 ans réagit différemment, puis plus tard, ça jouera peut-être même sur ses opinions, ça pourra influencer dans son métier, dans plein de choses. Et dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais parler aussi des autres livres, les autres sujets que vous traitez, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui, alors pour revenir un instant sur la série sur les justes, le tome 3 se déroulera dans la région de Toulouse, dans les trois départements du Tarn, Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, Toulouse, Albi et Montauban.
Avis aux auditeurs que ça intéresse.
Voilà, et alors j'y suis pour rien, mais les trois évêques de ces trois départements sont justes.
En plus.
Je n'y suis pour rien.
Non, mais ça prouve qu'ils ne sont pas rares et ça prouve que tant mieux, il y en a eu. Parce que chaque juif qui a été sauvé,
c'était aussi une différence. Le cardinal Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, l'archevêque d'Albi, les sœurs bleues de Castres, c'est énorme le nombre de juifs. Malheureusement, on vient de perdre Monsieur Debray. Et oui. Je l'ai connu, je l'ai rencontré moult et moult fois dans des salons. Et lui m'a dit, ma famille, parce qu'il était d'origine juive.
Il pouvait être juste et pas juste, parce que les justes, ce sont des non-juifs, normalement.
Ah non, je vous explique.
Mais lui, il a eu un mélange dans sa famille.
Il a eu un mélange.
Des changements de religion.
Son grand-père était rabbin au début du siècle.
Ce qui n'est pas rien.
Voilà, c'est pas rien. Et, une partie de sa famille a été cachée par des catholiques à Toulouse, par des gens simples. Et il m'a dit, j'espère que dans le tome 3, vous parlerez de cette famille à qui on doit notre vie. Et malheureusement, il est parti, donc il ne pourra pas assister au lancement de cette BD, mais je ferai un petit clin d'œil à Monsieur Debray dans l'album, évidemment.
Oui, j'imagine bien, parce que j'ai lui aussi rencontré, c'est un homme charmant, et puis même il a apporté dans sa famille une touche personnelle en politique, on aime ou on n'aime pas, ou on apprécie différemment, mais ce sont des gens qui ont représenté, entre autres son père était quelqu'un qui a fait beaucoup pour la famille française, on ne peut pas lui enlever, c'est quelqu'un qui était très attaché à l'aspect social des Français, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des familles qui sont quand même aujourd'hui à toucher certains avantages dus à son papa, donc c'est pas négligeable, on peut pas en rogner des réalités, la réalité c'est propre des gens qui s'intéressent à l'histoire avérée et non pas celle qui est édulcorée par une propagande qui vient de tel ou tel bord politique ou religieux, et je trouve très riche et très important de parler, c'est vrai que pour moi c'est important parce que pourquoi on parle souvent des justes? Parce qu'en réalité, c'est une façon de replacer l'humanité à sa juste valeur et de se rendre compte que dans toutes les couches sociales et dans toutes les religions et dans toutes les nationalités, voire, comme le disait Marek Alter, en parlant des Polonais, c'était même chez lui en Pologne, il avait remarqué que c'était des gens les plus modestes, les plus pauvres, qui avaient été le plus parmi les justes. Mais c'est incroyable.
C'est ce qu'on remarque dans nos travaux de documentation, de recherche, en préparant cette série sur les Juifs. C'est effectivement, il y a eu des gens formidables. À Comte, ce sont des ouvriers communistes qui ont caché les Juifs. Mmh. Et des Juifs.
Et alors qu'il y a eu des communistes collabos au voilà, départ. Il y a
vraiment absolument de tout.
Chez les communistes, il y a eu les résistants, on les retrouve partout. Partout. Et même parmi les Juifs, ce qui est très beau de savoir que comme aujourd'hui, quand on voit les opinions de l'extrême gauche, qui est malheureusement autrement discutable, aujourd'hui, il y en a certains, c'est extrêmement grave de voir comment ils se comportent.
Mais, puisque vous parlez de ça, moi, j'ai essayé d'être neutre politiquement, je suis un artiste, Bien sûr. C'est difficile de l'être complètement. Je suis quand même choqué que les revues dites de gauche ne disent quasiment rien de ma BD, de notre série sur les Juifs parmi nous. Je me fiche pas mal de ma personne. Je parle de la série.
Pour le message, est-ce que ça représente?
Voilà, les Juifs parmi les nations, c'est souvent des médias de droite. Pas d'extrême droite, parce que je pense pas qu'il y ait des médias d'extrême droite en France, personnellement.
Et puis moi, j'avoue.
Mais de droite.
Je parle de gauche, je parle de droite, voilà. Je parle jamais d'extrême. Parce qu'il y a vraiment une extrême gauche voilà. Fasciste, alors que l'extrême droite fasciste aujourd'hui en France, si elle existe, elle est minuscule aujourd'hui.
Et en tout cas, les médias de droite, eh bien, ont fait un très très bon accueil à notre BD sur les Juifs parmi les nations. Et c'est pas uniquement, pour faire bien. Ce sont des convictions personnelles de la part de ces journalistes. Alors que la plupart des journaux dits de gauche, eh bien, n'ont rien fait.
Libération, Le Monde.
Rien. Et il n'y a rien. Même pas une recension. C'est ahurissant, quoi. Et c'est vrai pour les radios aussi. J'ai beaucoup de mal, alors que j'ai fait des BD très éclectiques, pour des,
je sais que vous avez été chez nos collègues de Paris. Radio J, Radio Shalom de Paris, qui sont,
ils précisent encore une radio différente,
mais je sais qu'ils vous ont reçu comme beaucoup de radios régionales, ce qui est normal, parce que c'est un événement, et parce que je le pense sincèrement, que vos livres ont de l'importance, et je le dis parce que c'est un peu comme l'histoire des Juifs, c'est que si même une bande dessinée, une seule, pourrait changer l'opinion d'un enfant, influencer un adulte ou d'un enfant de manière positive, c'est déjà énorme.
Je n'arrive pas à avoir reçu régulièrement sur plein de médias pour mes différents albums. Par exemple, BFM TV, impossible d'avoir une recension. Le Nice Matin n'a quasiment rien fait sur les Juifs, rien. Une petite. C'est un peu surprenant, je le dis. Et des médias aussi de gauche nationaux, habituellement me reçoivent. Pour les Juifs, ils font rien. Est-ce qu'ils ont peur?
C'est intéressant ce que vous dites. Rien. Parce que ça prouve à quel point la politique et la politique de certaines opinions relativement gauche ou extrême gauche s'influencent à tous les niveaux, au point même d'éviter des éditeurs parce qu'ils parlent d'un sujet qui les dérange ou qu'ils ne veulent pas encore parler parce que ça retrace encore une réalité de la France qui n'ont peut-être pas envie.
À mon avis, c'est plus grave que ça. C'est inquiétant pour l'avenir.
Ah, je suis d'accord.
C'est très inquiétant.
Sur le présent et l'avenir, c'est plus inquiétant.
C'est rare que je dise autant ce que je pense dans des médias, mais là, aujourd'hui, je le dis parce qu'il faut. C'est très.
Et puis dans mon émission, il n'y a pas de langue de bois. Vous pouvez vous lâcher.
L'avenir est. C'est vraiment très, très inquiétant.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que quand on est à refuser la réalité, à nier cette réalité d'histoire, c'est abominable. Il nous reste à peine, 3 minutes. Vous avez encore une minute, même
alors,
si vous voulez rajouter quelque chose que j'ai pas
comme pensé. Vous l'avez dit, je fais des sujets très divers. J'ai cette série sur les Juifs, une série sur la ligne Maginot aux éditions Plein Vent. 2 tomes dans les Alpes-Maritimes. La ligne Maginot a commencé.
Elle est immense.
Et elle a commencé chez nous. Elle a commencé à Roquebrune-Cap-Martin et elle continue parce que beaucoup de gens me disent on arrive ici. Je dis, non, elle a commencé.
Elle
dans
descend
les
bien bas et monte pas assez haut.
C'est
malheureusement.
C'est le contraire. Elle a commencé dans les Alpes-Maritimes.
Si elle a monté plus haut, ça a changé une partie d'histoire.
Elle a commencé dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, j'ai une série, comme je vous l'ai dit, chez Dargo sur les énergies renouvelables et naturelles, les mondes d'Arven. On prépare un 4e tome sur le thermalisme. J'ai une nouvelle BD qui se prépare le Comte Avénessin. On va parler des Juifs du Pape. Le Comte Avénessin, c'est le Vaucluse, grosso modo, Avignon. Mais on va parler du Comte Avénessin depuis l'Empire romain jusqu'au XIXe siècle. Et le tome 1, l'affrontement des royaumes, sera publié en juillet prochain. Donc c'est un magnifique album. Et c'est l'occasion aussi de parler de mes différents co-auteurs. Ce sont des équipes. Donc il y a pas mal de dessinateurs, Bruno Pradel qui est aussi coloriste, Fabrizio Russo qui est le dessinateur de cette BD qui sort en juillet. Pour la ligne Maginot, on a Aurélien Bédéneau qui a un gros talent, le tome 3 se prépare.
C'est beau d'avoir autant de talent dans ce
voilà. Pour la BD sur les mondes de Darwin, c'est Cédric Fernandez avec lequel j'ai fait la BD sur Pompidou. aux éditions Plein Vent, avec Stéphane Bern.
Là, vous avez de quoi faire. Il n'y en a pas beaucoup, des présidents de la Ve République.
Alors, des présidents
cultivés. Ça vaut la peine.
Les présidents cultivés, dans les dernières décennies, se comptent sur les doigts de la main.
Ils sont des fois cultivationnés, comme disait un personnage communiste
très connu. Pompidou, c'était un homme extrêmement cultivé. Et Stéphane Bern s'est joint au projet parce que ça l'intéressait. C'est pas du tout une BD politique, c'est sous la culture. Et on prépare aussi dans la région une série sur la résistance avec la communauté de communes des Paillons. Je remercie d'ailleurs Monsieur Piazza.
Je pense d'ailleurs au siège de la Gestapo qui est pas loin de Boulevard Gambetta.
On va en parler dans ce nouveau projet. J'espère que le département nous soutiendra naturellement. C'est une série sur la résistance dans les Paillons et je signale une BD avec Stéphane Bern qui sortira le 11 juin prochain à Monaco sur l'histoire de Monaco et d'autres projets. Mais les gens peuvent nous retrouver sur les réseaux.
Voilà, vous avez le programme. En tout cas, si jamais vous en avez besoin, je sais que sur les librairies de la région, sur Internet, vous trouverez les livres. Sans problème.
Le 27 avril, le consistoire régional m'a invité je crois que c'est au Palais des Congrès de Golfe-Juan.
D'accord. Alors, on est à peine à quelques secondes parce que le timing va nous couper. En tout cas, on en parlera, mamie passera l'annonce. Merci beaucoup d'être venu parler de ces magnifiques ouvrages, parce que pour moi ce sont des ouvrages, c'est pas que des bandes dessinées. Merci d'être venu et puis
merci
à la prochaine aux auditeurs. Mais merci et bientôt, merci à votre fidélité. Litraut, les invités.
Israël d'hier et d'aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Israël sans langue de bois. Avec André Bar-Mocha, Israël d'hier et d'aujourd'hui sur RCN. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.